BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, c'est BFM Patrimoine qui vous accueille pour 2 heures d'expertise. C'est votre promesse, notre promesse, votre rendez-vous quotidien avec votre argent. Et on file tout de suite sur les marchés pour rejoindre à la Bourse de Paris Antoine Larigauderi. Que se dit-on pour entamer cette nouvelle semaine, Antoine ?
Semi-figue, mi-raisin, ça n'a pas vraiment de tendance, hein, cette entame de marché. On a un repli de 0,12% du CAC 40 à 6734 points, moins 0,06 pour l'Eurostock 50, moins 0,21 pour le DAX à Francfort. Autant dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Et pourtant, on a des indicateurs qui s'affolent un petit peu sur d'autres compartiments de marché. Alors tiens, les bourses asiatiques, ce matin quand même un score impeccable pour la bourse de Hong Kong, plus 4,5% avec les valeurs techno qui vraiment ont signé une séance en fanfare, plus 1,60%. 76 pour le composite de Shanghai, mais rien, aucun impact sur l'Europe. Alors à noter aussi, si on regarde bien, une petite hausse de la volatilité avec un indice VIX américain qui repasse légèrement le cap des 20 points. Bon, c'est à suivre, ça fait quelques minutes que ça se passe. L'autre marché qui va fort, c'est le marché des changes. On assiste quand même à une forte hausse de l'euro qui se retrouve quasiment à 1,06. Hein, désormais, on a eu des très nettes poussées ce matin. On est au plus haut depuis fin juin, globalement, sur l'euro-dollar. Alors, deux effets à cela. Déjà, la baisse du dollar, hein, ça c'est évident. Il y a des petits signes de faiblesse. Et puis, un euro qui reprend un tout petit peu de vigueur parce que, du côté des cambistes, des analystes, on se dit que la facture énergétique est peut-être appelée à s'alléger un petit peu du côté de la zone euro et que ça va libérer un petit peu de potentiel économique. Donc tout ça est en faveur de l'euro. Maintenant, voilà, ça reste une dynamique à suivre qui est avant tout impulsée quand même par la faiblesse du dollar. Mais ça n'a pas vraiment d'impact concernant la cote parisienne. À noter que les plus fortes hausses sont quand même des valeurs industrielles qui sont concernées au premier chef par ces problématiques énergétiques. On a ArcelorMittal qui signe une progression d'1,8% à 26,12€. Saint-Gobain plus 1,59 à 46,42€. Il y a le secteur bancaire qui se porte bien aussi. Crédit Agricole plus 0,5 à 9,58 et BNP Paribas plus 0,47. On est en ce moment à 53,02€. Et à noter Sanofi, plus 0,94, 86,58€. À la baisse, on retrouve quoi ? Bouygues, moins 3,4%. La mauvaise performance à 28,87€. Téléperformance, moins 1,44€ à 225,20€. Dassault Systèmes, moins 35 à 36,22€. Il n'y a pas vraiment de préférence sectorielle. Il y a peut-être la techno qui est un petit peu en baisse sur les marchés européens. À noter qu'on revient sur des dossiers réputés un peu risqués, peut-être témoins d'une certaine forme de reprise de risque chez certains investisseurs. Valneva, plus 8,16% à 7,20€. Le secteur des maisons de retraite, Orpea, plus 7,16, on est à 7,73€. Corian, plus 3,19 à 10,20€ sur le SBF 120. Puis à noter les belles performances aussi d'Eramet et d'Aperam. Donc on a vraiment une logique matière première hein, qui est en train de se mettre en place. Eramet, plus 4,27 à 83,10€ et Aperam, plus 2,88 à 30,67€. Le CAC, donc en très légère baisse, on devrait repasser dans le vert hein, dans quelques minutes. Moins 0,09% à 6736 points. Et l'euro, donc 1,0555, Cédric.
Antoine Larigauderi, on vous retrouve tout à l'heure. Hein. Vous suivez la séance et on se donne rendez-vous à 11h. Antoine, d'ici là, l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, après le charbon et le gaz, l'Europe se passe du pétrole russe. L'embargo européen entre en vigueur aujourd'hui. Plus aucun cargo ne pourra décharger de brut russe dans les ports européens. Autre décision, le plafonnement du baril à $60. La mesure a été adoptée par l'UE, les pays du G7 et l'Australie. Elle vise à restreindre les revenus de la Russie tout en s'assurant que Moscou continue à alimenter le marché mondial. De son côté, l'OPEP+, a finalement décidé de s'en tenir à ses côtés. Actuel. La Chine assouplit les restrictions anti-Covid. Le gouvernement annonce une série de mesures dont la fin des tests de masse et la réouverture des commerces. C'est le cas notamment à Pékin et à Shanghai. Une décision qui intervient alors que l'activité dans les services s'effondre, bien plus encore qu'attendu, en particulier dans le tourisme, l'hôtellerie-restauration et les transports. Après Emmanuel Macron, la Commission européenne plaide pour plus de protectionnisme en réaction au plan anti-inflation américain. Bruxelles doit réagir face aux distorsions de concurrence en prenant des mesures de rééquilibrage, a dit hier Ursula von der Leyen. Dans la foulée, Thierry Breton a estimé que l'Union européenne devait soutenir son industrie. Le gouverneur de la Banque de France plaidera pour une hausse des taux de 0,5% lors de la prochaine réunion de la BCE. Ce sera le 15 décembre. François Villeroy de Galhau dit le souhaiter à titre personnel. Il ajoute que la BCE va entamer la seconde mi-temps de sa politique monétaire et procéder à des hausses de taux plus flexibles à partir de janvier en fonction de la conjoncture. Dans l'actualité entreprise, Total Energy signe un accord avec Air France KLM. Le groupe va fournir un carburant durable à la compagnie à partir de l'année prochaine et pendant 10 ans, principalement pour les vols au départ de la France et des Pays-Bas. Ce carburant sera produit dans les bioraffineries de Total Energy. Le départ surprise du patron de Vodafone, Nick Reed, démissionne sur fond de contre-performance du groupe. Le Britannique quittera son poste à la fin du mois. Il est remplacé en intérim par Margaretha De La Vallée, qui gardera aussi ses fonctions actuelles de directrice financière. Et puis le patron de Nissan est à Paris cette semaine, selon Bloomberg. Il mène des discussions sur l'alliance avec Renault et les modalités de la participation du Japonais à la restructuration de son partenaire français. Mais selon Reuters, il reste encore des désaccords, si bien que rien ne devrait être annoncé dans les prochains jours, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie, on se retrouve à 11h comme chaque jour pour suivre cette actualité économique et nous tout de suite on s'intéresse à vos placements et on commence avec Pépites et Pipo.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipo.
On retrouve Benjamin Rivière qui nous attend chez Tiepolo. Bonjour Benjamin.
Ouais, bonjour.
Merci d'être avec nous et vous nous proposez ce matin un coup d'œil sur ALD. On commence par rappeler un peu qui est ALD, un petit portrait.
Tout à fait. Alors ALD, donc c'est l'un des leaders européens du leasing automobile. Il faut savoir que c'est encore aujourd'hui une filiale à 80% de la Société Générale. Et donc pour rappeler un peu pour vos auditeurs, hein, lorsque vous avez besoin d'utiliser une voiture, vous avez plusieurs options, vous pouvez l'acheter avec ou sans emprunt, la louer ou la prendre en leasing, et en leasing en français on pourrait traduire ça par de la location de longue durée, en moyenne c'est 4 ans. Donc à la différence des constructeurs automobiles hein, qui ont toute une filiale de leasing, hein, Volkswagen étant la plus grosse société de leasing en Europe, eh bien ALD est agnostique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quelle marque de voiture lorsque vous allez voir la Société Générale ou lorsque vous êtes une entreprise. Voilà, et de plus en plus, évidemment, ALD se tourne vers les particuliers.
Voilà donc pour le portrait. On sait un peu mieux pour ceux qui ne sont pas très avertis qui est ALD. Alors pourquoi ce choix aujourd'hui, malgré, on peut dire, un parcours boursier chaotique hein, depuis l'introduction en bourse?
Tout à fait, le parcours boursier a été chaotique. Alors la société a versé des dividendes, donc il faudrait retraiter un peu le parcours boursier des dividendes, mais c'est vrai que c'était très chaotique. Mais pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que les planètes commencent à s'aligner. Hein, ALD a réussi à mettre la main en début d'année dernière sur son concurrent LeasePlan, néerlandais. Hein, ils sont d'une taille équivalente. Et bien, j'ai bien dit, l'année en début d'année 2022, donc ça a mis un an. Et pourquoi l'opération aujourd'hui? Tout simplement parce que la Commission européenne vient de donner son accord. Voilà, avec des remèdes qui sont assez léger. Il y a quelques pays qui vont devoir les subir, en tout cas pas les gros, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour réaliser cette opération, qui se passe en ce moment, ALD réalise une augmentation de capital d'1,2 milliard d'euros, c'était prévu 1,3 milliard en début d'année, donc c'est un tout petit peu moins. Ensuite, les actionnaires de l'ISFLA actuel, ils détiendront 30% du futur ensemble, la Société Générale 53%, et puis pour boucler le tout, ALD va mettre son cash dans la balance, environ 800 millions d'euros. Donc on se demandait toujours pourquoi est-ce qu'il gardait ce cash et qu'il le rendait pas aux actionnaires. Bah maintenant on a la réponse. Voilà, ça c'est la première question, la première raison de pourquoi on s'intéresse à ALD aujourd'hui. Bah ensuite, on voit bien que la location de vente longue durée, ça a de plus en plus le vent en poupe, ça devient de plus en plus la norme. Alors c'était évidemment déjà le cas dans les grandes entreprises qui avaient des flottes entières à financer. Et ça devient de plus en plus le cas pour les petites et moyennes entreprises et puis les particuliers. Hein, puisque finalement, lorsque vous avez un véhicule en leasing, vous payez le service, bon, le financement avec évidemment, mais ALD s'occupe de tout le reste. Hein, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'assurance, s'occupe de l'entretien, il s'occupe de la revente du véhicule. Hein, il faut bien comprendre qu'ALD, ils sont toujours propriétaires du véhicule. Et puis comme ils achètent ces services en gros, ils ont des prix plus intéressants et ils permettent d'en faire bénéficier à ses clients.
Voilà donc quelques idées qui justifient effectivement l'intérêt que vous portez au titre. Alors du leasing auto dans un contexte actuel de pénurie de voitures et de contraction du marché, c'est pas jouer un thème un peu risqué ?
Alors, effectivement, le marché automobile est dans une mauvaise passe, on pourrait dire, surtout en Europe. On a vu que les ventes de véhicules avaient quand même nettement baissé ces dernières années. Ben, c'est pas le cas pour ALD. Les revenus d'ALD, eux, sont récurrents. C'est du leasing, c'est du revenu récurrent sur 4 ans au moins. Donc, la croissance a été modeste, mais il y a quand même eu une croissance. Et puis, donc, on voit bien que ça dépend peu du marché automobile. Ça dépend du besoin des entreprises. Et comme ils sont très gros, eh ben, ils arrivent, eux, à se sourcer au niveau de leurs véhicules. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, eux, ont moins subi la crise que les particuliers, par exemple.
Et du coup, dans cette période un peu de questionnement énergétique, quelle énergie on choisit chez ALD ?
Alors, on se souviendra qu'au moment du Dieselgate de Volkswagen, ça avait été une grosse inquiétude des investisseurs en disant « Oh là là, ils ont plein de véhicules diesel, ils vont jamais réussir à les revendre, et puis c'est plus à la mode, etc. » Alors, non seulement ils ont réussi à les revendre sans perte, mais en plus, ils ont changé leur fusil d'épaule très rapidement. Et aujourd'hui, c'est devenu le premier acheteur de véhicules électriques en Europe. Ça représente 27% des nouveaux véhicules livrés. Donc, on voit bien qu'ils ont réussi à nouer des partenariats. Ils ont noué un partenariat avec Tesla, notamment. Donc, ils ont noué des partenariats qui leur permettent de livrer ces véhicules électriques et donc de participer au verdissement des flottes des entreprises clientes d'ALD.
Voilà donc cet éclairage proposé ce matin depuis Tiepolo sur ALD qui cote 9,99€ en hausse de 2,99% ce matin dans un marché lui en repli de 0,43% pour l'indice, 6712 points. Merci beaucoup Benjamin Rivière donc depuis Tiepolo.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Bruno Cavalier nous attend chez Odo BHF. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous du lundi matin. Et on va profiter de publications, d'enquêtes de confiance de novembre. Il y en a certaines qui sont parues ce matin pour faire un petit balayage de l'économie mondiale en Europe, en Chine, aux États-Unis. On commence par la Chine.
Si vous voulez, puisque comme toutes ces enquêtes sont publiées en suivant les fuseaux horaires, c'est finalement ce qu'on a eu en premier.
C'est assez logique.
Voilà. Alors par ailleurs, on peut aussi malgré tout faire une petite hiérarchie du meilleur au plus mauvais, ou du mauvais au meilleur. Et il se trouve que la Chine, au moment où on parle avec ces enquêtes qui sont un peu comparables d'une zone à l'autre, apparaît tout en bas du classement. La raison, je crois, elle est assez simple. Le climat des affaires en Chine évolue tout au long de l'année, évolue en fonction de la séquence foyer d'infection Covid, restrictions, confinement, et puis ensuite déconfinement. Bon, il se trouve que dernièrement, on était plutôt dans la partie de cette séquence reconfinement ou mesures restrictives, et donc ça pèse quand même très très lourd sur la demande intérieure et sur le sentiment des entreprises. Un point tel que, on voit bien ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a quand même beaucoup de rumeurs autour d'un allègement de la politique zéro Covid. Il y a eu ce week-end quelques annonces de certaines flexibilisations des restrictions dans plusieurs zones. Donc c'est vraiment là le point central, je crois, sur la conjoncture chinoise ou les perspectives de la conjoncture chinoise à court terme. Ça va dépendre essentiellement de l'évolution de cette politique.
Effectivement, on parle beaucoup notamment de ces Covidés qui vont pouvoir s'isoler à la maison, et c'est une vraie nouveauté du côté chinois. Si on continue notre tour du monde, que mettons d'autres si on remonte un peu puisqu'on est parti du bas du classement ?
Dans l'Europe. Alors l'Europe, on a, si vous voulez, autant en Chine, bon, on voit bien l'élément de risque majeur, c'est le Covid, puis aussi un peu l'immobilier. En Europe, l'élément de risque majeur, c'est l'énergie, la guerre, les relations avec la Russie, tout ça alimentant un choc d'inflation, qui lui-même alimente un choc de politique monétaire. Donc ce qu'on observe depuis le début de l'année, c'est quasiment mois après mois un déclin du sentiment du côté des entreprises, mais octobre-novembre, c'est presque le même chiffre. Donc, y a une réflexion qui commence à s'ébaucher. Est-ce qu'on est déjà au point bas ? Si on est déjà au point bas, donc forcément, les choses vont aller un petit peu mieux demain en termes d'activité. Bon, soyons tout à fait honnêtes sur le fait qu'on a peu d'éléments pour valider encore cette hypothèse. Voilà, un point, bon, ça va dans le bon sens. Si on en avait plusieurs, ça serait quand même plus agréable. D'autant plus que, bon, on a une perception de la crise énergétique qui est sans doute un tout petit peu moins alarmiste qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Bon, enfin, l'hiver commence. Les relations avec la Russie, on ne sait pas très bien ce que va donner peut-être la réaction russe au nouvel embargo sur le pétrole, le plafonnement du prix du pétrole russe. Et donc, je crois qu'il faut garder une certaine prudence sur les perspectives européennes. Je crois que le scénario généralement admis, c'est qu'on va quand même avoir quelques mois, peut-être de trimestres, où l'activité devrait baisser. Voilà, on va rentrer un peu dans cette période plus difficile. Mm-hmm. Mais voilà, au niveau du climat des affaires, aujourd'hui, c'est ce qui nous dit.
Voilà donc pour cette deuxième zone. Et puis, on continue à faire tourner la map monde. Et on en arrive aux États-Unis.
Oui, alors les États-Unis, la petite difficulté d'analyse concernant le sentiment des ménages, c'est qu'on a plusieurs séries d'enquêtes qui sont pas toutes absolument cohérentes. Hein. Y a plutôt un mouvement général de dégradation du sentiment de l'entreprise, ça on voit bien, mais suivant une enquête à l'autre, ça se fait à un rythme assez différent. Le secteur manufacturier semble être beaucoup plus affecté que le secteur des services. On voit bien qu'il y a quand même des zones de l'économie américaine qui vont très mal, l'immobilier, la construction résidentielle, d'autres qui s'affaiblissent, typiquement l'activité manufacturière, mais qui ne s'effondre pas non plus. Et puis il y en a d'autres qui, jusqu'à présent, ont plutôt bien tenu les services, avec des éléments de rattrapage. On voit bien, on a eu aussi une donnée d'emploi vendredi qui montrait qu'il y avait quand même toujours une certaine robustesse des créations d'emplois. Donc je dirais pour les États-Unis, plutôt un mouvement de dégradation des perspectives, mais malgré tout, des trois grandes zones, je crois que c'est encore celle qui résiste le mieux à ce jour aux différentes séries de chocs, bon, y compris le choc monétaire. Voilà.
Voilà les bases posées. Après, vous parliez du choc. Jusqu'où, finalement, quand on regarde tous ces chiffres, parce qu'il y a aussi ceux de l'emploi, alors on va pas les recommander en tant que tels, mais on a un petit peu la question qui se pose, c'est que si les banques ne parviennent pas à freiner suffisamment tôt et continuent à pousser les feux monétaires un petit peu plus haut, jusqu'à quel point on peut grimper sans causer de dommages collatéraux grave à nos économies. Je pense là aux États-Unis et à l'Europe, bien sûr.
D'abord, des dommages collatéraux, je crois qu'ils veulent en faire subir à l'économie, sinon...
Oui, mais jusqu'où peuvent-ils être supportables ?
Voilà. Écoutez, je crois que tout le monde tâtonne. Personne n'a la réponse. Mais justement, il y a un moment où je crois qu'on est en train de peut-être de clore une première séquence où il y avait l'idée on a été surpris par le choc d'inflation, il faut réagir de manière extrêmement vigoureuse, très rapide. Donc c'est toute la séquence, on a eu des hausses de taux, 75 centimes, plus 75 centimes, plus 75 centimes, 4 fois aux États-Unis déjà, 2 fois en Europe. Bon, je crois que cette séquence est peut-être en train de se terminer. C'est plus une idée de est-ce qu'on a pris du retard. Là, quand on a monté les taux à telle vitesse et à telle amplitude, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qu'on peut plus parler vraiment de retard. Donc, on va rentrer dans la deuxième séquence où probablement les rythmes de hausse vont être un petit peu plus modestes. Et c'est justement là l'idée, c'est voilà, est-ce qu'on arrive à mieux fixer le point terminal et, pour reprendre votre expression, en minimisant les effets collatéraux. Voilà, bon, on rentre juste dans cette séquence. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire combien de temps elle va durer. On voit bien dans le cas des États-Unis que le marché du travail jusqu'à présent ne coopère pas beaucoup avec ce que souhaite faire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Bruno Cavalier. Donc depuis Odo BHF ce matin, le marché parisien lui reste pour le moment en territoire négatif. On est à 6719 points et on perd 0,33%. On a même légèrement accru la baisse dans les dernières minutes.
Votre rendez-vous avec Empruntis, courtier en crédit et assurance. Empruntis.com, 160 agences partout en France.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Et la Vie Immo qui accueille ce matin Thomas Péridier, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous pour Crédit Agricole Immobilier. Et on va parler de promotion, notamment de promotion tertiaire. Tiens, on était avec Bruno Cavalier il y a un instant, on parlait conjoncture. Ce ralentissement économique voulu par les banques, comment est-ce qu'il impacte finalement votre activité? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déjà sous le coup de ces mesures?
Oui, on est effectivement directement impacté. La hausse des taux directeurs génère une hausse des taux de capitalisation sur tout le marché de l'immobilier de l'entreprise. Donc, les marchés de l'immobilier entreprise subit depuis quelques semaines, quelques mois, une baisse de l'ordre de 15 à 20%, y compris sur le marché prime parisien. Donc c'est bien un impact direct que nous subissons et qui risque de perdurer puisqu'on voit bien que la prime de risque immobilière, elle est actuellement relativement faible puisqu'elle est d'environ 100 points de base et que lors des 10 dernières années, on était plutôt à 250 points de base de prime de risque immobilière. Donc un marché qui continue à s'ajuster en ce moment.
Vous disiez, tout le monde est touché, y compris le prime. Malgré tout, j'imagine que lui fait partie probablement de ceux les moins touchés tout de même. Cette règle immuable de l'emplacement reste valable.
Bien sûr, évidemment. Le prime parisien et notamment Paris intramuros résiste extrêmement bien. Pourquoi ? Puisqu'on a un taux de vacance qui reste malgré tout très faible. On est en dessous des 3%. On voit également que les loyers continuent à progresser. L'ILAT a progressé de 5% au cours de l'année. Donc, c'est des valeurs locatives qui continuent à progresser. Donc, un marché parisien prime extrêmement résilient malgré la conjoncture, malgré la hausse des taux directeurs.
Alors, on a ces questions conjoncturelles qui sont entre guillemets nouvelles parce que issues de la volonté des banques centrales européennes de lutter contre l'inflation. Malgré tout, votre monde, il avait déjà connu avant ce choc-là un précédent choc qui était le Covid, qui avait entraîné une évolution quand même assez significative de l'environnement du monde du bureau, même si on a vu que certains doutes qu'on avait vu naître au creux du Covid ne s'étaient pas tous transformés. Quelle est l'évolution, justement, 2 ans après, là, maintenant, qu'on a un peu de recul?
Alors, ça y est, on a du recul, les choses se sont stabilisées, le bureau n'est pas mort, bien au contraire, je crois que la pandémie nous a appris plusieurs choses, elle nous a appris qu'il fallait travailler différemment, on va de plus en plus vers une hybridation des modes de travail, donc avec un mix télétravail, travail au bureau, travail également dans des espaces satellites, des bureaux des tiers-lieux. Donc la pandémie, elle a eu un impact directement auprès des grands utilisateurs qui, en fait, ont réduit leur consommation d'espaces de bureau de 15 à 20%. Ces grands utilisateurs qui avaient un peu déserté le marché pendant quelques mois sont revenus et réinitient de grands projets de restructuration et appréhendent leur surface de bureau un peu différemment puisque
c'est-à-dire qu'en fait le bureau doit muter.
Le bureau doit et a muté. Aujourd'hui, vous avez un tiers des surfaces des bâtiments de bureaux qui sont réservées à des espaces collaboratifs, là où auparavant on était plutôt à 15-20%. Donc on voit bien que maintenant, on va au bureau pour collaborer, pour se former, pour prendre des décisions, et on n'y va pas uniquement pour se retrouver derrière un écran à faire du traitement de texte.
Oui, bien sûr. Ça se fait à domicile.
Exactement.
Et le bureau cherche autre chose. Et puis, il y a aussi un autre thème qui traîne, entre guillemets, sur ce monde immobilier, et j'imagine que le tertiaire n'y coupe pas, c'est tout celui de la transition énergétique, de l'écologie, du vert, de l'urgence climatique. Comment vous appréhendez ça?
Alors, on l'appréhende déjà depuis quelques temps. Il est certain que les choses se sont accélérées. Et ça va dans le sens également du recentrage sur Paris. C'est-à-dire qu'on a les utilisateurs et le marché qui nous dirigent naturellement vers les gares multimodales. de connexion. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déjà on économise du carbone dans le déplacement des collaborateurs qui viennent dans des espaces de bureau. Donc recentrage de nos projets sur ces grandes gares multimodales de connexion. On est sur une nouvelle façon de développer les projets avec beaucoup plus de projets de rénovation, restructuration pour économiser tout le carbone que l'on peut dépenser sur des constructions neuves, notamment quand on fait appel à du béton. Donc beaucoup plus de projets de restructuration, rénovation, mais également un travail très différent dans l'emploi des matériaux. C'est-à-dire que on va chercher des matériaux biosourcés, géosourcés, on va faire appel maintenant systématiquement, quasi systématiquement, à de la construction bois pour réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments. Et ça, c'est véritablement essentiel, comme le réemploi qui a pris une dimension ces derniers mois toute particulière. Oui.
Est-ce que ça a quand même un coût, tout ça ?
Oui, ça a un coût, et ça a un coût dans un contexte économique où l'inflation, les coûts de construction ont continué à progresser. Donc ça a un coût qui nécessite de travailler un peu différemment les projets, notamment en région, puisque les équations économiques sont beaucoup plus tendues qu'en Île-de-France. Donc ça impose un travail d'optimisation des enveloppes du bâtiment pour améliorer le volet énergétique et la consommation énergétique des bâtiments, mais également pour améliorer l'enveloppe économique et optimiser les coûts de construction. Et enfin, parce que c'est quand même la finalité, donner le meilleur usage possible aux utilisateurs de ces bâtiments, et notamment en termes d'éclairage naturel.
Merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc Thomas Péridier pour le Crédit Agricole Immobilier, ce focus sur tout ce qui touche à la promotion tertiaire. À très bientôt.
Merci.
Merci d'être passé nous voir. Le marché parisien reste en territoire négatif. On va voir ce qu'en pensent dans un instant nos deux traders, Jean-Louis Cussac et Stéphane Sauduteil. Et puis n'oubliez pas les replays qui vous attendent sur notre site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui auscultent la séance du jour et vous livrent leur vision de la journée en cours et des seuils, des supports, des résistances qui peuvent affecter les transactions. On retrouve ce matin Stéphane Sauduteil depuis Technibourse et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. Merci d'être au rendez-vous devant vos écrans pour nous lire un petit peu les choses. Stéphane, comment appréhendez-vous cette baisse ce matin ? On a bien tenté de revenir, mais pour le moment, sans succès.
Oui, c'est vrai. Les chiffres du chômage vendredi ont fixé quand même des niveaux sur l'indice CAC 40. Alors, on a eu un chiffre bien supérieur aux attentes, donc ce qui a tendu un petit peu les taux d'intérêt. Ça n'a pas plu au marché dans un premier temps. Et puis, finalement, hein, comme il est résilient, eh bien il est reparti un petit peu de l'avant pour réfléchir de nouveau ce matin. Donc, on a vraiment des niveaux assez intéressants pour s'appuyer, pour trader en intraday. Donc, 6690, 6700, c'est vraiment le niveau en dessous duquel on pourrait constater une dégradation peut-être un petit peu plus significative qui pourrait nous ramener, alors les niveaux d'alerte montent encore cette semaine, hein, sur les 6450, 6550, mais pour l'instant ça n'en prend pas trop le chemin. Et puis on est capé vers les 6750, 6760 points. On avait fait un point haut il y a quelques jours à 6800 points, mais ça a été assez furtif. Donc on retiendra quand même cette grosse zone de résistance 6750-60. Donc on évolue finalement entre ces limites. C'est vrai que cette semaine, il n'y a pas beaucoup de news macroéconomiques. On a eu des PMI des services en Europe légèrement inférieurs aux attentes, ce qui explique peut-être un petit peu cette baisse. On attendra l'ISM des services cet après-midi, et puis l'indice des prêts à la production vendredi. Donc on voit que c'est une semaine peut-être de transition. Alors il faut quand même faire attention également, parce que on a un pourcentage d'investisseurs haussiers aux États-Unis qui ne fait que monter. On est à 78% d'investisseurs haussiers, donc le consensus est très très élevé. Donc ça, souvent, c'est quand même pénalisant. On le voit, hein. On voit que les marchés n'arrivent plus à vraiment progresser. C'est peut-être lié à ce trop fort consensus, parce que 78% d'investisseurs haussiers, ça veut dire qu'ils sont déjà tous dans le marché. Alors la bonne question à se poser, c'est qui va continuer à acheter ce marché si tout le monde est déjà dans le marché. Donc voilà, c'est assez pénible quand même comme situation, puisque on a l'impression de redire un peu jour après jour un peu les mêmes choses, puisqu'on est dans les mêmes limites quasiment depuis un mois maintenant, avec des tentatives de débordement par le haut de ces zones que je viens de commenter, mais sans réel succès, sans réel relais, mais on n'arrive pas non plus à baisser. Donc voilà, on est dans cette mouvance, on se tient dans, allez, on va dire 70 points de range, donc ce qui est pas énorme, mais ce qui permet quand même de trader entre ces niveaux, hein, plutôt être à l'achat vers 6007 et plutôt être vendeur vers 6750. Donc voilà ce qu'on peut dire ce matin. Voilà, marché toujours calme, hein, on peut le constater comme ça.
Voilà la lecture proposée par Stéphane Sauduteil. Et Jean-Louis Cussac, comment vous positionnez-vous sur ce marché ?
Toujours à l'achat, Cédric. Là, ce matin, dans le trade du jour, on a proposé 6713,5 et on a eu de la chance. On a coté 13 au plus bas. Donc, ça a été fait. Déjà, on peut faire un petit écart sur une partie de la position. Alors après, le relais, ben oui, on se pose toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il va y en avoir un ? Nous sommes entre les mêmes limites que celles de vendredi, mais bon, on peut aller encore sur les plus hauts de vendredi. Vous savez, tout est possible. Ces marchés, vraiment, sont assez incroyables. Ils sont sans faiblesse. Il y a une résilience extraordinaire. Tout ça témoigne d'une attente très optimiste quant à la stratégie de la Fed. Et en même temps, il n'y a pas, au contraire, moi, si vous voulez, c'est les spéculateurs qui sont peut-être acheteurs, mais de nombreuses gestions, il n'y a pas vraiment de fortes positions à l'achat. Il y a plutôt des investisseurs sous-investis, et ce sont eux qui viennent payer si jamais ça baisse. Alors, ça baisse même pas suffisamment pour qu'ils viennent payer. D'où des volumes extrêmement faibles qui ne montent que lorsqu'il y a des événements. Événements, bah, des statistiques importantes, une fin du mois, comme on a vu le volume de la fin du mois, etc. Mais sinon, on reste dans l'attente comme ça. Il n'y a pas de catalyseur qui puisse manifestement perturber le marché, pour l'instant en tout cas. Et on reste dans cette attente optimiste dont je parle depuis des semaines et des semaines, avec un marché qui arrive à gratter un peu de hausse chaque semaine. Bon là, on voit bien qu'il a du mal, mais en même temps, il baisse pas. Donc c'est assez incroyable. La volatilité implicite reste... Bon, elle a baissé un peu, mais elle remonte dès qu'il y a des inquiétudes. Elle est à 15 à peu près, hein. C'est pas si mal que ça dans un contexte de hausse comme on l'a connu. Aujourd'hui, sur les actions, il n'y a pas grand-chose. Il y a Bouygues là, qui est dégradé par Bank of America. Sinon, bon, le reste évolue de la même manière, si vous voulez. Il n'y a pas d'écart extrêmement fort. Les deux idées de base, c'est le travail de la Fed est loin d'être terminé. Les banques centrales vont continuer à souffler le chaud, le froid. On le voit après les statistiques de l'emploi aux États-Unis. On reste sur un message d'arrêt, mais pas plus que ça, pour l'instant encore. Et l'euro-dollar, vous avez vu ce mouvement magnifique encore vendredi, où on est reparti de l'avant avec pourtant des taux souverains qui ont remonté partout, mais bon, peut-être un peu plus en Europe. Mais en tout cas, l'euro-dollar reste ferme, 1,0558. Là également, on est acheteur prioritairement, notamment sur des replis. On laisse porter une position de fond à l'achat. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Le long terme reste haussier. Et puis, quand on a des baisses comme ça, on peut avoir un comportement opportuniste. Dans la journée, des baisses de 50 pipes jusqu'à 80 pipes, on peut essayer d'acheter pour jouer des petits rebonds. Voilà, donc un contexte globalement identique à celui de la semaine dernière, avec à chaque fois des opérateurs, des gens, des acteurs, des traders qui se grattent la tête en disant « Bon, alors, quand est-ce que ce marché va nous faire un vrai retracement ?» Mais on l'attend.
Eh bien, on l'attend ensemble et on se retrouve tout à l'heure, Stéphane Sauduteil, hein, à 11h30. Et d'ici là, très bonne séance sur le marché. Merci à Jean-Louis Cussac également, que l'on retrouve chaque jour sur l'antenne depuis Perceval Finance Conseil, le marché parisien donc qui se montre pour le moment baissier, même si on a tenté par une fois déjà de rallier notre niveau de clôture de vendredi soir. On perd 0,26%, 6724 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Et on retrouve Nicolas Dose, comme chaque jour, pour la polémique. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Les taux de crédit immobilier montent toujours. Où en sommes-nous?
Alors, on est à 1,7% en octobre, nous dit la Banque de France, mais qui a 1,77. Mais qui a la conviction qu'on va largement passer le 1,8 au mois de novembre. On a un chiffre novembre de crédit logement CSA qui porte sur un panier beaucoup plus restreint, qui en novembre nous met, c'est du hors assurance, nous met déjà à 2,25%. Voilà, c'est des hausses répétées qui viennent principalement des choix de politique monétaire, de remonter les taux d'intérêt pour essayer de juguler l'inflation de la part des banques centrales. Donc l'argent est plus cher, les taux sont plus élevés, l'argent est plus cher. On sait aussi que le taux d'usure ne sera pas rehaussé avant le mois de janvier, que c'est un frein. Donc la production de crédit est en train actuellement de reculer. Argent plus cher, production de crédit en baisse, plus en plus de refus de prêt. La demande immobilière aujourd'hui baisse en France.
Donc ça va vouloir dire baisse des prix ?
C'est implacable. Quand vous avez une baisse de la demande, il y a un moment où vous avez une baisse des prix. Et ça se confirme dans pratiquement toutes les grandes villes de France. Le top 4 là, des villes qui ont connu les plus fortes baisses en un mois, c'est Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Paris. Et Paris, sur un an, c'est moins de 1,5% tout de même. Il y a deux grandes villes qui continuent à voir les prix un peu augmenter, mais un peu. Lille et Marseille, sinon on fait de la résistance dans les zones plutôt régionales et les villes de taille moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le FMI, vendredi, nous a publié son rapport sur la stabilité financière d'octobre. Et là, il constate une baisse des prix de l'immobilier dans le monde entier. Et alors, il y a des baisses très impressionnante, moins 14% en Suède, par exemple. La ville de San Francisco, depuis le début de l'année, donc la ville de San Francisco, depuis un an, a vu les prix baisser de 7%. Et la BCE nous dit, de toute façon, c'est pas compliqué, dès que les taux font plus 1, deux ans après, vous avez les prix qui font moins 5%. Donc on est dans ce mouvement de remontée des taux et de baisse des prix de l'immobilier. Mais donc là, les choses se confirment et se généralisent un peu à l'ensemble du pays.
Mais est-ce qu'il faut redouter un effondrement de ce marché immobilier ?
Alors, à ce stade, pas du tout. En tout cas, pas chez nous, c'est clair. Voilà. La demande recule, mais elle ne s'effondre pas. Les prix baissent, mais ils ne s'effondrent pas. En fait, on dit oui, la production de crédit, ça se tasse. Mais quand on fera le bilan de la production de crédit 2022, ça restera un cru très franchement exceptionnel en termes de production de crédit. J'ai envie de dire qu'on vit une normalisation. Pendant des années, on avait l'argent qui coûtait rien. Et les prix qui, visiblement, étaient destinés à s'emballer sans jamais devoir s'arrêter. Bah, le fait que l'argent ait retrouvé un prix et que les prix aient retrouvé un peu de raison, pour l'instant, plutôt qu'un crack, un effondrement, j'appelle ça une normalisation. Après, on a une caractéristique en France qui nous préserve par à comparer à d'autres pays, c'est que on a la culture du taux fixe et pas du taux variable. Allez voir nos camarades anglais, là, comme ils sont contents. C'est 6% hein, chez les Anglais, c'est pas de 25. Ouais. Voilà. Et en plus, honnêtement, on dit bah les taux remontent, mais enfin, on avoisine les 2% en rassurance. 2% en rassurance, ça reste quand même des taux tout à fait abordables. Donc il n'y a pas un nom de menace d'effondrement soudain là.
Nicolas Dose pour la polémique du jour, chaque matin sur l'antenne de BFM Business. Dans un instant, on va parler private equity et puis ensuite montre avec Christian Fontaine. Et puis dans la deuxième heure, on ira notamment faire un tour du côté des fonds de gestion et on évoquera notamment les fonds à échéance.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Marc Le Bozec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Financière Arbevel. Je le disais, on va évoquer tout ce qui touche au private equity en faisant un petit focus sur le secteur de la santé. D'abord, petit état des lieux. Voilà, on est en fin d'année. Ce monde du private equity, comment se porte-t-il dans ce contexte un peu particulier? Remontée des taux, crainte de récession, l'inflation, etc. Comment ça se passe le private equity dans tout ça?
Alors moi je connais que le domaine de la santé, hein, c'est mon domaine d'expertise. Dans le domaine de la santé, il y a un peu deux grandes catégories. Il y a des gens qui font de l'amorçage et du capital risque d'un côté, donc ils vont chercher à contribuer à développer des produits, des services, des technologies. Ça, je dirais raisonnablement, ça suit son cours. C'est quelque chose qui est un peu étranger à la macroéconomie. Et puis vous avez à l'autre extrême, vous avez les gens qui font du capital développement, des LBO. Eux sont dans une phase clairement d'attentisme, voire de ralentissement avec la remontée des taux, puisqu'ils utilisent l'emprunt pour financer une partie de leurs activités. Donc ça, clairement, on a vu un ralentissement là ces dernières semaines. Nous, encore une fois, on est un peu décorrélé du reste de l'économie. On n'est pas comme les fintechs qui, elles, manifestement, ont ralenti déjà avant l'été. Mais pour ce qui est de la santé, effectivement, octobre, novembre, décembre, ça s'est bien calmé. Donc tout le monde est dans l'attentisme. Nous, la particularité de notre positionnement, c'est qu'on est juste au milieu, chez Financière Arbevel. On est après les fonds de capital risque et juste avant les gros fonds de croissance. Et du coup, on a un terrain de jeu qui est complètement ouvert. On a encore énormément d'entreprises qui sont très attractives, qui sont assez mal financées. Donc nous, on est complètement étranger à ça, et ce d'autant plus qu'on ne fait pas appel à l'emprunt, à la dette pour financer nos activités.
Et du coup, en termes d'investissement, là, ce secteur, entre guillemets, cette activité private equity, elle reste très dynamique ?
Chez nous, elle est très dynamique. Maintenant, la difficulté, c'est que nous, on a investi notre premier fonds pleinement. On est en train de lever notre deuxième fonds. Ça se passe très bien. On est ravis, mais avec un décalage par rapport à notre cible initiale de clôturer, de faire un premier closing en fin d'année. Donc, on le fera en début d'année. Pourquoi ça ? Parce que les souscripteurs, donc ce qu'on appelle les LPs, les limited partners, les gens qui sont susceptibles de mettre de l'argent dans un fonds que vous allez vous-même investir dans des entreprises, ces gens-là sont attentistes en ce moment.
D'accord.
Et pour l'essentiel, attendent de voir le début de l'année 2023. Et là, vous avez un peu deux types d'attitudes. Vous avez les gens qui... et c'est assez partagé, c'est presque du 50-50. Vous avez les gens qui prévoient la fin du monde pour début 2023. Mm-hmm. Et à contrario, vous avez des gens qui sont exactement à l'opposé, qui vous prédisent un début de 2023 absolument merveilleux.
Faisons la pause deux minutes pour voir justement ce premier fonds que vous avez investi. Ça a donné quoi ? Enfin, en clair, si on essaie de donner quelques chiffres...
Ouais. Alors, on a levé une quarantaine de millions d'euros. Fin 2018 et début 2020. On a investi dans 11 sociétés, dont 10 en France. On a créé environ 500 emplois. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont des emplois très qualifiés. On a revendu une première société avec un multiple de 4. Et là, on est en train de vendre 4 sociétés en ce moment, d'ici la fin de l'année, avec des multiples qui vont entre 2 et 6. Et sur un temps assez ramassé comme ça, vous produisez une performance qui va se situer entre 15 et 20% net par an sur la durée de vie du fonds. Donc voilà la logique de ce que nous faisons. Le prochain véhicule, on le démarre donc en début d'année. On lève cette fois 100 millions d'euros. On se focalise strictement sur les entreprises dans le domaine.
Donc, on fait plus que doubler.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est l'idée, ouais.
On change de taille.
Et encore une fois, on le fait dans un temps assez ramassé, puisqu'on a une performance qui est très bonne et qu'on peut faire valoir aux souscripteurs potentiels. Donc sur le premier fonds, on avait un tiers de particuliers et deux tiers d'institutionnels. Là, on va avoir à nouveau un tiers de particuliers. On a collecté presque 25 millions d'euros à date. On va sans doute monter à une trentaine de millions d'euros. Ce sont des tickets qui vont de 100 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros.
D'accord, donc rien en dessous de 100 000. Le ticket d'entrée, c'est 100 000.
Ouais, pour des raisons réglementaires.
Ça se comprend.
Et non seulement c'est 100 000 euros, mais il faut s'assurer, et le temps de souscription est long, il faut s'assurer que la personne qui souscrit 100 000 euros a les moyens de souscrire 100 000 euros.
D'accord, mais vous nous avez dit 40 millions pour le premier fonds, 11 entreprises, donc là 100 millions, donc ce sera quoi, 22, 23, 30 ?
Non, alors justement, c'est une très bonne question. Non, on va faire exactement le même nombre d'entreprises, 11 ou 12.
D'accord.
Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, moi, je capitalise sur mon parcours d'entrepreneur et j'accompagne les équipes de direction. Donc on est très très impliqués.
Ça veut dire que pour être clair, c'est pas que des sous que vous apportez.
Non, vraiment pas. C'est-à-dire que moi, mon expertise, c'est que j'ai créé ma première société de biotechnologie en 1998, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc j'ai un vrai savoir en la matière. Et donc j'apporte cette historique, cette expertise aux équipes de direction. Donc on est très, très, très...
Et c'est
impliqués.
Aussi ce que recherchent les entreprises qui, entre guillemets, vous font de l'œil. C'est de dire, oui, on a besoin d'argent pour, mais on a peut-être aussi besoin d'un petit peu de staff.
Oui, c'est vrai, parce que dans notre monde, l'essentiel des entrepreneurs sont des scientifiques de formation, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des docteurs et sciences, et qui n'ont qu'une culture économique en général assez modeste. Et moi, c'est vraiment ce que j'apporte. Je vous donne un exemple, une société qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires en 2017, on a investi en 2019, elle faisait 3 millions en 2019, l'année dernière, elle a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Lorsque je suis arrivé à bord, c'est une société de service, ils étaient hyper fiers parce qu'ils avaient 100% de taux de réussite de leur devis. Et j'aurais dit, si vous avez 100% de taux de réussite de vos devis, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Donc entre juillet 2019,
pas assez cher, mon fils.
Entre juillet 2019 et février 2022, à l'heure où on est sorti, on a revendu notre participation, on a augmenté les prix de 80%. Et actuellement, la société a un taux d'échec de 7%. Donc il y a encore une marge. D'accord. Pour améliorer ça.
Alors régulièrement, justement, vous puisez aussi un petit peu dans vos fonds, dans votre expérience, etc., pour nous proposer un coup de projecteur sur une entreprise. De qui vous nous parlez cette fois-ci?
Je voulais vous parler d'Euromems, qui est une société grenobloise, qui a été une merveilleuse structuration. Un médecin de la Salpêtrière, un urologue, Pierre Moser, qui a vu souffrir ses patients qui souffrent d'incontinence urinaire et qui voulait trouver une solution. Donc, il a inventé une solution avec des ingénieurs de la région grenobloise, en particulier Stéphane Lavallée, qui est un entrepreneur à succès, et puis un dirigeant, Hamid Lamraoui, qui lui est PhD, docteur en sciences. Et cet ensemble-là a créé un nouveau dispositif médical implantable et qui a été implanté pour la première fois au mois de septembre à la Pitié-Salpêtrière avec succès sur un patient qui souffre d'incontinence urinaire. Et l'idée, c'est un petit boîtier qu'on va vous mettre dans l'abdomen, qui va être connecté à l'urètre et qui va vous permettre, avec une télécommande, d'uriner ou de ne pas uriner à volonté. Ce qui est une révolution. Il n'y a pas eu d'innovation technologique depuis plus de 30 ans en la matière. C'est un progrès pour les patients. Il faut savoir que ça touche plusieurs dizaines de pourcents des gens, de tous les gens, les hommes et les femmes, après 60 ans. Et la plupart des gens ont honte de ça, parce que les solutions technologiques sont très peu opérantes. Et c'est la raison pour laquelle on vend plus de couches pour personnes âgées aujourd'hui, pour personnes incontinentes, que pour des bébés.
Merci beaucoup. Marc Lebozec, ce matin avec nous pour Financière Arbevel. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Le marché parisien, lui, il continue à perdre un petit peu de terrain. On est en repli de 0,2%, 6729 points.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Un petit coup d'œil sur cet indice avant de retrouver Christian Fontaine. Le CAC perd 0,19%, 6729 points en baisse dans les mêmes eaux. Du côté des places européennes, l'Eurostoxx 50 abandonne 0,18%. Du côté des plus forts replis, on a du Bouygues, moins 3,48% à 28,88. Du Michelin, moins 2,05 à 26,58. Ou encore du Téléperformance, en baisse d'1,58% à 224,90. Et puis quelques hausses tout de même, dont Saint-Gobain, qui progresse d'1,39% à 46,33. On trouve également dans le vert du Legrand, du Sanofi et du Crédit Agricole. L'Eurodoll est à 1,0552.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Comme chaque lundi, c'est Christian Fontaine qui est avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour Cédric, bonjour
pour
à tous.
Le revenu, vous êtes pile à l'heure, c'est normal, puisque votre thème de la semaine, ce sont les montres de luxe. Vous nous proposez donc d'y investir, au-delà du plaisir de détenir presque un bijou, j'ai envie de dire, en tout cas une montre d'exception. Cet ornement de poignet peut aussi nous faire gagner de l'argent?
Et bien sûr, les montres de luxe plus rentables que le CAC 40. Alors, mais sur rien que poser la question, c'est un peu une question provocatrice, quoique. Alors, il n'existe pas, Cédric, d'indice d'évolution du cours
des
montres de luxe. Mais lorsqu'on regarde l'évolution de quelques modèles iconiques, c'est vrai qu'il y a de quoi rêver. Alors, uniquement trois exemples. Cartier Tank américaine, grand modèle en or jaune, plus 86% en 5 ans. Rolex Daytona, plus 140% toujours. Sur la même période, selon Collector Square, donc des chiffres collectés par Louis Thomas pour le revenu. Patek Philippe Nautilus en acier, plus 264%, des chiffres qui font bien sûr rêver. On aurait pu penser que le marché des montres, en particulier le marché des montres de luxe, allait être tué par le développement, l'explosion du smartphone. Comme
ouais, et puis
le
des montres connectées, etc.
Voilà, ouais. Le smartphone a quand même tué les appareils photo. Il n'en est rien, vous avez raison, cet ornement du poignet n'a jamais été autant désirable.
Bon, malgré tout, comment peut-on réussir un investissement?
Alors, c'est un marché de spécialistes, un marché de niche, un marché de connaisseurs. Donc, il faut s'y investir un minimum. Il faut bien sûr aussi, et c'est le premier conseil, comme pour tous les placements plaisir, investir dans un garde-temps qui vous plaît. Côté budget, il y en a à peu près pour tous les budgets. Bien sûr, les modèles iconiques des stars sont absolument inabordables. Il faut compter plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. La Rolex Daytona de l'acteur Paul Newman a été adjugée à New York. 15,3 millions d'euros à New York, je vous rassure. Pour peut-être pas quelques centaines, mais quelques milliers d'euros, il est possible de se faire plaisir et d'investir dans un garde-temps dont on peut espérer qu'il va se valoriser avec les années.
Alors, la question c'est celle-là souvent. C'est est-ce que on peut prendre une petite montre entre guillemets ou est-ce qu'il faut juste jouer les grands noms ?
Ah, je sais que vous rêvez, Nicolas, du petit horloger indépendant. Malheureusement, lorsqu'on regarde l'évolution des cotes sur le moyen long terme, on constate que ce sont les grandes marques qui progressent le plus. Alors, il y a des grands dans les grandes marques, il y a aussi des nuances. Cartier est plutôt en retard donc par rapport à d'autres. C'est vrai que la Tang, la Panthère, la Pacha, c'est des noms, des marques, des modèles connus. Et aujourd'hui, vous pouvez peu ou prou encore, sauf exception, en dégoter autour de 10 000 euros. Omega, porté par James Bond, là aussi, Sea Monster ou une Speedmaster. Donc alors, vous pouvez se déniche sur le marché de la seconde main donc autour de 10 000 euros. Et puis, pour surtout... aujourd'hui, au lendemain de la victoire des Bleus, on est forcé de parler de Hublot. Hublot, c'est le chronométreur officiel de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et l'égérie de la marque ne sont rien d'autre que Kylian Mbappé et Didier Deschamps. C'est une marque du groupe LVMH, une marque de luxe d'un horloger suisse. Alors, il n'y a pas encore eu des phénomènes spéculatifs sur la marque comme il y a eu sur d'autres marques. Il n'empêche que si vous voulez investir dans cette horloger, on peut espérer, notamment en cas de victoire des Bleus, si on va plus loin, une progression de la cote. Il y a une montre spéciale FIFA World Cup Qatar 2022 qui a été lancée à cet effet. Deux, trois petites remarques quand même générales avant d'aborder d'autres marques encore plus connues. C'est vrai qu'il faut toujours investir sur le second marché, en seconde main, sur une pièce qui a été révisée, alors plutôt par un horloger spécialisé. Les pièces peuvent être révisées par les marques elles-mêmes, mais ça prend souvent beaucoup de temps et cela coûte assez cher. Et bien sûr, toujours profiter, toujours aux enchères, préférer une montre dite full set, c'est-à-dire avec la boîte d'origine, document d'achat et facture de révision.
Bon, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas miser sur le petit horloger d'où qu'il vienne et qu'il fallait taper dans les marques, mais vous ne nous avez pas parlé de Patek Philippe, pas de Rolex, pas de... Bon.
Alors évidemment, la marque iconique, donc alors sur lequel il y a eu le plus de spéculation, donc alors indéboulonnable, indétrônable, donc alors c'est Rolex. Il faut savoir que sur le marché du luxe aujourd'hui, il n'y a peu ou prou pas de produits. Il y a des listes d'attente de plusieurs mois, voire plusieurs années pour les modèles à la mode. Il n'y a que de mémoire 4 usines Rolex dans le monde et la France n'est que autour du 10e marché mondial pour la marque iconique. Donc on n'est pas forcément les mieux servis sur ce marché mondial. Daytona, Submariner, il y a encore quelques modèles abordables ou plus abordables que les autres. Patek Philippe, bien sûr, ça reste une référence et d'une façon générale, les montres suisses avec ce qu'on appelle les complications, donc ces fonctions au-delà de l'heure, les phases de lune, le calendrier annuel. Donc bien sûr, Rolex, donc, alors, pour le côté spéculatif, ça reste une marque indétrônable.
Rien dans l'hexagone ?
Alors, si vous voulez investir dans un garde-temps franco-français, je vois que vous avez votre mou des bons jours, vous pouvez investir dans une LIP, bien sûr. Alors, c'est vrai que la marque très connue dans les années 70 n'a pas vraiment décollé aujourd'hui pour un modèle avec chrono. Il faut compter autour de 1000 euros, ceci dit... l'horlogerie haut de gamme, c'est comme tout, il y a des modes, il y a des cycles, ouais. Et ça peut revenir. Mais
bon.
Si vous voulez une montre franco-française, je vous conseillerais plutôt d'investir dans une Pékinier, son fameux calibre royal. Donc c'est l'un des derniers manufacturiers français de calibre, ce n'est pas uniquement un assembleur, donc c'est un horloger vraiment indépendant du Jura, compté entre 3000 et 8000 euros sur le marché du neuf.
Bon, on termine juste par le petit point casse-pied, comme à chaque fois, si on s'investit dans ce marché. Bon, on achète, on fait une belle affaire, on la revend à bon prix, donc on a fait une plus-value. Donc on va intéresser le fisc ?
Alors bon, casse-pied, si on a déjà fait une plus-value, c'est déjà une bonne nouvelle, mais effectivement, on passe peu ou prou par la case impôt. Si... à condition, évidemment, que le prix de vente de votre garde-temps soit supérieur à 5 000 euros. En dessous de 5 000 euros, ni impôts, ni prélèvements sociaux. Au-delà de 5 000 euros, vous avez une taxe forfaitaire de 6,5%. Vous pouvez aussi, si vous êtes en mesure de prouver votre prix d'achat, la date d'achat par exemple, donc là, avec une attestation en un commissaire priseur, choisir, opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles, qui est assez proche donc du régime de taxation des plus-values immobilière, 19% d'impôt, 17,2% de prélèvements sociaux. Comme vous êtes fort en mathématiques, ça fait 36,2%. Et heureusement, il y a un abattement pour durée de détention qui fait qu'au bout de 22 ans de détention, vous serez totalement exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Voilà, investir dans un garde-temps, ça peut être rentable. C'est une idée aussi pour se faire plaisir à quelques semaines de Noël. Et pourquoi pas donc alors investir dans la montre donc, qui est porté par nos footballeurs Mbappé et l'entraîneur national.
Et tout le monde, quoi.
Voilà.
On ne va pas donner les 11.
On ne va pas donner les 11, mais voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous un accord avec la marque en question. Mais voilà, en tout cas, c'est un investissement plaisir à quelques semaines de Noël.
Placement plaisir. Christian Fontaine qui nous accompagne comme chaque lundi. On se retrouve tout à l'heure, Christian.
Avec plaisir.
Vous répondrez aux questions des auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire BFM Patrimoine, BFM Business. Dans un instant, un détour par les marchés, puis suivra Regard croisé. N'oubliez pas non plus les podcasts et replays qui vous attendent sur notre site.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.